l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cathy Bousquet et Pierre Carrière du comité d'accueil des migrants de Montarnau, un comité qui est intervillage. Pourquoi je les reçois? C'est parce que la journée internationale des réfugiés est le 20 juin et que par conséquent, ils ont décidé à Montarnau de marquer cet événement par différentes manifestations qui commencent dès le 12 juin. J'aimerais que vous expliquiez à nos auditeurs comment s'est formé ce comité, depuis quand il existe et pourquoi.
Ben, durant l'été 2015, tous les médias, télé, presse écrite, réseaux sociaux, parlent des naufrages en Méditerranée, de nombreux bateaux de fortune, transportant des migrants qui fuient leur pays en guerre, des Zodiacs par exemple. Il y a eu 3770 noyés en 2015. En 2016, de janvier à septembre, 3520, soit 20% de plus. Également, tous les JT annoncent l'exode de plusieurs milliers de personnes qui traversent à pied une partie de l'Europe pour venir se mettre à l'abri. Que trouvent-ils? Des frontières fermées, des clôtures pour empêcher l'entrée, etc. etc. De plus, l'image du petit Elan, un petit Syrien de 3 ans, mort sur un rivage de Méditerranée en Turquie en 2015, moi, m'a personnellement touché et m'a amené à me positionner et à prendre parti. Les appels lancés par le président de la République à l'époque, ainsi que par le pape, comme quoi il fallait se mobiliser, que les communes se mobilisent pour accueillir des familles, à notre sens, n'a pas trouvé d'écho. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce comité. À vos départs, nous étions quelques-uns. Nous sommes arrivés à 80 personnes environ, issues de tous les villages autour de Montarnau. Nous travaillons en collaboration avec la CIMAD, le Secours catholique, Réseau éducation sans frontières, Médecins du Monde, welcome. Bienvenue 34, welcome. Nous sommes pleins de bonne volonté, mais pour comment aider tous ces gens, nous sommes pratiquement tous des novices dans une telle situation. Lors d'une réunion de novembre 2015, nous décidons de tout faire pour accueillir une famille de réfugiés sur Montarnau ou un autre village, accueillir des personnes seules dans le cadre de Welcome. Nous mettons parallèlement en place un volet culturel pour médiatiser cette problématique des migrants. Nous avons passé un film Abama, une pièce de théâtre Salaud de pauvres. Et après plusieurs contacts avec la préfecture qui ont été assez longs, on accueille le 12 octobre 2016 une famille syrienne qui a le statut de réfugié, la famille Kasbarian. Nous sommes allés les récupérer à la gare de Montpellier le 12 octobre et nous avons emmené sur Montarnau dans un appartement qui nous avait été offert par une famille et tout s'est bien passé. En plus, par l'intermédiaire...
C'est une famille de combien de personnes?
Il y a le papa, la maman et un petit garçon qui maintenant est en CM1. Le papa était électricien auto en Syrie. Et il a pu trouver un emploi le 1er février 2017. Donc il est resté trois mois au chômage, si on peut dire. Ouais.
En fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est qu'on a voulu s'organiser localement pour accueillir, pour montrer qu'on pouvait accueillir et surtout qu'on avait la volonté d'accueillir dans les villages. Donc c'est pour ça que c'est nous qui avons fait des pieds et des mains auprès de la préfecture en mobilisant notre mairie pour leur demander d'être caution pour qu'un appartement soit officiellement mis à disposition vis-à-vis des services de la préfecture et qu'il y ait une offre d'accueil. Voilà, parce qu'en fait, il n'y avait pas de mise en relation et il n'y avait pas de réponse communale. Voilà. Et après, on a fait la même démarche dans toutes les communes alentour, puisque dans notre comité, on avait des gens de toutes ces communes. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, malheureusement, cet écho n'a pas eu d'effet
dans les autres communes.
Hein, voilà. Et par contre, ce qui continue, donc en plus de cette famille qui réside maintenant durablement sur la commune de Montarnot, certaines familles du comité ont intégré le réseau Welcome qui, lui, permet d'accueillir des personnes seules qui ne sont pas prises en charge par les services de l'État, comme normalement le droit d'asile impliquerait cet engagement, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place en CADA, sur Montpellier et alentour. Donc à ce moment-là, on est ce qu'on appelle un pétale du réseau Welcome, et il y a une douzaine de familles qui se mettent ensemble et qui s'engagent à accueillir, le temps de la procédure de la demande d'asile, la même personne, et à lui faire découvrir et les rites et le secteur, à l'accompagner dans son insertion linguistique, à faciliter son intégration. Ce qui n'empêche pas qu'après, c'est la CIMAD ou d'autres services qui vont construire avec elle la procédure et le dossier. Hein. Voilà. Nous, on est dans tout ce qui est la vie sociale, la vie locale.
Oui, alors depuis justement que ce pétale fonctionne, il y a eu combien d'accueils ?
Je crois qu'on est à plus de 7 personnes accueillies. Voilà. Parce que dès que la situation du demandeur d'asile est stabilisée, c'est-à-dire qu'il a son statut de réfugié à ce moment-là, il a accès soit à des formations, soit à un travail. Enfin voilà, après, ça, la vie s'ouvre sur le territoire français pour la personne. Donc c'est surtout, on va dire des jeunes. Des jeunes hommes célibataires, puisque les familles ou les femmes avec enfants sont prioritaires sur les CADA. Donc on a un jeune qui a été qui est arrivé de Guinée, qui a été en formation ensuite sur Perpignan. On a des adultes d'une quarantaine d'années. On rencontre aussi, on va dire, toute la réalité géopolitique de la planète. On a accueilli, personne accueillie, c'est un Palestinien, un réfugié palestinien, mais du coup apatride, puisqu'en fait, lui, n'avait plus de patrie au sens d'endroit où aller. Donc voilà, il est en formation commerciale, puisque c'est son souhait. Voilà. Actuellement, nous accueillons un Yéménite qui, lui, est aussi en formation, qui a une formation, un bagage d'économie, et qui est actuellement à l'université Paul Valéry en cours de français langue étrangère, et pour qui le dossier est encore en cours. Voilà.
Donc une chose qui se fait maintenant continuellement.
Oui, de façon continuée, oui, tout à fait.
Alors, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés ?
En ce qui concerne l'accueil de la famille, on a eu des problèmes un peu avec la préfecture, puisque ils ne savaient pas s'ils nous donnaient pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est une famille de réfugiés qui allait au statut de réfugié. Comme nous n'étions pas une association, on voulait pas prendre quelqu'un au risque de devoir après lui dire qu'il fallait qu'il s'en aille de France. Donc on a eu des discussions pendant de novembre 2015 à peu près à septembre 2016.
Ah oui, c'est long.
Après, bon, ça s'est fait, les relations étaient bonnes, mais bon.
Ce qui a été positif, là, c'est le travail quand même qu'on a fait avec la mairie, où les services municipaux nous ont aidés à faire une plaquette pour présenter, localiser la commune, pour montrer. Voilà, que vraiment on était un territoire qui voulait accueillir, et ça c'est parti après sur Paris dans les réseaux, oui, pour aider à ce qu'une famille ait envie de se positionner et de venir chez nous. Voilà.
Parce que la préfecture n'a pas la même mise sur le fait de nous proposer une famille. Il y a une plateforme qui était à Montreuil, la DIAL, c'est eux qui gèrent tous les logements de France.
Ah oui, c'est national.
Et ce sont les réfugiés qui décident s'ils veulent venir ou pas. Ah. On a eu deux, trois familles qui voulaient venir, puis que dernier moment ont refusé de venir, ils ne voulaient plus venir sur Montpellier. Et puis après, on a eu cette, la famille Calvarian qui a accepté. Et comme dit Cathy, suite à la plaquette que nous avons fait, ils ont pu aller voir sur Internet, localiser le village par rapport à Montpellier, par rapport à la région, et ils ont accepté de venir. Et le monsieur qui était électricien auto dans son pays, qui avait un garage, ils habitaient, ils viennent de Syrie, ils étaient à Kobané, une ville qui a été détruite à 100% par la guerre. Et arrivé ici, suite à l'accueil qu'on a fait dans la famille, et à un article paru sur un journal local, un monsieur qui a une société d'électricité auto l'a embauché tout de suite, enfin tout de suite, il l'a embauché, il lui a fait un contrat en CDD, compte tenu des problèmes de langage. Il nous dit au bout de 15 jours qu'il ne sait pas s'il va le garder ou pas. Et puis 15 jours après, il me rappelle en me disant non, c'est un excellent ouvrier, je le garde. Et depuis, il est toujours dans cette entreprise-là. Et même les clients de l'entreprise, quand ils ont des problèmes sur les chantiers pour aller réparer des pelles mécaniques ou quoi, ils demandent à ce que ce soit M. Calvarian qui y aille et pas quelqu'un d'autre. C'est quand même formidable.
Et le petit. De la langue, est-ce que cette famille a pu se former?
Oui, parce que du coup, il y a un groupe de personnes, et dont, notamment avec une institutrice à la retraite, qui a fait installer un cours de français et de pratique de la langue. Et Mme Calvarian parlait déjà le français. Donc, il y a un entraînement, il y a une progression. Et puis, à partir du moment où ils sont complètement insérés dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, le petit garçon va aussi à l'école, donc si vous voulez, l'apprentissage de la langue se fait
naturellement
au fil du temps, voilà. Mais il y a une très bonne compréhension et voilà.
Alors, vous avez apporté de la musique, de quoi s'agit-il?
Alors, le premier morceau, c'est un morceau de Marianne Ayaomak. Et on a choisi ce chant parce qu'elle invite à ce que chacun prenne ses responsabilités, se réveille un peu de sa léthargie face aux situations qu'on peut rencontrer. Et c'est ce que nous, on a fait à 80 sur nos communes. Et il nous semble qu'il faut que ça continue.
Pura mentira. Nosotros queremos la verdad, pura mentira. Nosotros ya no queremos más guerra, mentira. Nosotros queremos la verdad, pura mentira. Nosotros ya no queremos más guerra, pero oh, you're like you love it, love it, pero oh.
Incohérence, incohérence et contradiction, et contradiction d'une société qui, hormis la consommation, sans limite, ni modération, sans limite, ne sait ni ce qu'elle veut, ni où elle va, ni ce qu'elle veut, ni où elle va, ni ce qu'elle veut, ni où elle va. Il est temps pour chacun d'entre nous, il est temps de reprendre le pouvoir sur son existence, Il incombe à toute personne convaincue de cette nécessité de prendre librement en compte sa propre transformation, sa propre transformation.
Pura mentira,
eso.
Queremos la verdad, pura mentira. Nosotros ya no queremos más guerra, mentira. Queremos la verdad, pura mentira. Nosotros ya no queremos más guerra. Queremos la verdad, queremos la verdad.
Vous avez également des actions auprès du collège.
Oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on avait créé ce comité, on a expliqué pourquoi, les raisons, mais qu'en même temps, on rencontrait des oppositions. Et des gens nous ont dit, ou ont fait savoir par mail, par retour, on ferait mieux de commencer par s'occuper des pauvres de chez nous. Et voilà. Donc, on a décidé d'aller à la rencontre des autres habitants, des collégiens, et d'essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait de commun entre les pauvretés chez nous et ces guerres, ces conflits. Voilà. Donc au collège, on a eu l'appui professeur d'histoire-géographie, notamment des classes de 4e et aussi les cours instruction civique et morale, parce que le phénomène migratoire, qui est un phénomène comment dire, mondiale et durable, hein, puisque c'est un phénomène permanent qui existe depuis toujours et qui continuera d'exister, puisque les peuples, les hommes, les femmes, tout le monde marche. Il n'y a pas que les conflits qui font déplacer les gens. Donc c'est enseigné à l'école et on explique, voilà, par ses enseignants, qu'est-ce que ça a produit, d'où ça vient. Donc ben voilà, il y a les guerres, il y a les raisons climatiques, les raisons économiques, les raisons politiques, enfin bon, voilà, tout ce qui a conduit aussi à la convention de Genève pour établir le droit d'asile au plan planétaire, quoi. Voilà. Donc on est invité par les enseignants à parler, à échanger avec les classes de quatrième, donc toutes les classes de quatrième chaque année, pour expliquer et pour dire comment nous on travaille et puis comment on pense la situation. Et c'est très intéressant parce qu'en fait les collégiens sont très ouverts et ils sont aussi d'une manière générale, très étonnée du comportement des adultes et de ce qu'ils voient dans les images et à la télé, et ils comprennent pas, voilà, qu'on n'accueille pas. Ça, c'est quelque chose qui, pour eux, a pas de sens, face aux images, évidemment, qu'ils reçoivent comme tout le monde. Voilà.
Alors, l'enfant là, de cette famille syrienne qui va à l'école, ça s'est bien passé, il est bien accueilli?
Il a été très bien accueilli par l'institutrice la première année qui est arrivée. Moi, je suis allé là. Il est arrivé le 12 octobre. Il est rentré à l'école le 17. Donc, vous voyez, il est arrivé le lundi d'après. Le lundi d'après, il était à l'école. On a visité l'école le vendredi avant avec la famille et avec l'institutrice. Et elle avait préparé, elle avait tout mis sur la table, les cahiers, tout ce qu'ils avaient fait depuis le début de l'année. Il a été reçu d'une façon, on ne peut mieux, on ne peut mieux. Et depuis, ça se passe tout à fait bien, tout à fait bien. Toutes les institutrices qui l'ont eu disent que c'est un petit garçon qui est formidable, quoi.
Et la première
malgré tout ce qu'il a vu et tout ce... Parce qu'ils ont vécu des choses quand même qui...
Oui.
On croit qu'il est timide, mais c'est pas de la timidité, c'est...
C'est ça, c'est des arrachements, c'est... Oui, oui. Cet enfant, il a voyagé, le seul objet qu'il a emporté, c'est sa guitare.
Oui. Et quand il est parti de chez lui, ils étaient dans le village. Ses parents ont reçu un coup de téléphone de leurs amis qui leur a dit, comme vous êtes chrétien...
Orthodoxe,
partez, parce que Daesh est entré du village, si vous partez pas, vous allez vous faire tuer. Et le petit, avant de partir, ils ont pris deux valises, avant de partir, il a embrassé tous les murs de la maison, en sachant qu'il ne reviendrait pas, quoi. C'est quelque chose de... Comment ne pas s'occuper de ces gens, comment ne pas s'investir?
Oui, et les autres enfants donc ont bien accueilli ce petit.
Ah oui, tout à fait. Même maintenant, il est invité à des anniversaires chez les petits copains de sa classe. Il va coucher chez les petits copains de sa classe.
C'est un enfant de sa classe d'âge, quoi. Ça, c'est très réussi.
Il va jouer au foot, il n'y a pas de...
Il a été aidé par une autre, enfin une ou deux personnes, mais en tout cas une en particulier, dame du village, qui l'a accompagné en soutien scolaire pour le français, pour vraiment les devoirs le soir et tout. Mais pareil, toujours en conseil avec les institutrices et en relais de là où il y avait besoin d'un petit appui.
C'est parfait comme accueil.
Oui.
Alors, vous avez aussi, grâce à vos nombreux partenaires dont vous avez parlé tout à l'heure, aider à des collectes qui ont servi aux gens qui sont dans les squats.
Voilà, depuis un peu plus de 2 ans, on fait des collectes de vêtements chauds pour l'hiver. Alors, couverture, gants, bonnets,
chaussettes.
On amène chaussettes. Oui, ils ont les gens ne savent pas, mais ils mettent peut-être 2 ou 3 paires de chaussettes. Parce que dans les squats, quand ils couchent dehors, c'est atroce. C'est atroce. Donc on a fait des collectes dans les villages. On a fait une collecte l'année dernière au collège, qui a très bien marché. Et on va avec un de mes amis qui est pas au comité, mais qui est humaniste comme nous, et qui... Ça n'a aucune importance, comité ou pas comité, l'essentiel c'est d'amener quelque chose aux gens qui sont dans le besoin. On va à peu près toutes les semaines dans les squats de Montpellier. Il y a trois, on va dans trois squats. Il y a un squat à l'Utopia, c'est les anciennes archives départementales que M. Sorel voudrait récupérer et mettre les gens dehors. Il y a un squat à côté de Val d'Aurel, c'est un ancien bâtiment de Buisson-Bertrand, qui est depuis deux ou trois mois. Il y a un squat à l'avenue Strasbourg, où il y a des familles albanaises, qui aussi sont en instance de peut-être d'être mis dehors. Et le gros problème, c'est que si on met dehors tous ceux qui sont dans les squats sur Montpellier, on va se retrouver avec 700 personnes à la
dans
rue.
Les rues.
Dans les rues. Et il faut dire aussi que 90% des personnes qui sont dans les squats sont dans les squats parce que l'État ne fait pas son boulot.
On ne met pas les moyens
puisque
à disposition.
À partir du moment où on fait une demande d'asile, on doit être accueilli, on doit avoir un logement, on doit... là, il n'y en a pas. Donc c'est difficile de fermer les squats alors qu'on est en tort quand même.
Et on doit, quand Pierre dit ça, il faut quand même savoir que c'est notre État hein, qui a signé la Convention de Genève. Hein, je veux dire, on ne l'invente pas. Hein, donc c'est nous qui sommes hors la loi en tant qu'État.
Et on a maintenant le problème des mineurs non accompagnés. Et les mineurs non accompagnés, c'est un gros problème parce qu'ils arrivent étant mineurs. Il arrive beaucoup de jeunes d'Afrique. Il y en a un qu'on connaît bien puisqu'il est accueilli dans des familles de Montpellier, autour de Montpellier, qui est scolarisé au lycée Léonard de Vinci en métallerie. Et ils arrivent avec des papiers et les autorités,
au premier abord,
les papiers sont faux. Donc on leur fait faire des tests osseux pour déterminer l'âge, alors que les tests osseux varient d'une fourchette de 1 à 2 ans. Mais la fourchette, elle est toujours dans l'intérêt, contre l'intérêt de l'enfant. Si on dit, il a peut-être 18, 19, ça sera 19. Mais si c'est 19, l'aide sociale à l'enfance et le département n'est plus obligé
de les prendre en charge.
Donc, ils mettent dehors. De plus, ceux qui sont pris en charge, le jour de leur 18 ans, on les met dehors. Le conseil départemental n'a plus à s'en occuper puisqu'ils sont majeurs. On les met dehors et on ne s'occupe pas de savoir
où ils vont.
Alors qu'il y a un dispositif de jeunes majeurs qui dit qu'on pourrait s'en occuper de 18 à 21 ans. Et je ne pense pas que le conseil départemental de l'Hérault ait mis ce dispositif en place. S'ils l'ont fait, tant mieux. Mais à ma connaissance, je ne pense pas.
Et oui, nous avons déjà parlé ici de ce problème. C'est évident. Et récurrent, on peut dire. À Montpellier, il y a de nombreux cas. Alors, vous avez donc aidé aussi ce réseau RESF.
RESF, voilà.
Oui, accueillir ces jeunes.
Voilà, RESF, ils accueillent ces jeunes. Ils téléphonent si des fois ils ont un problème. On a un jeune, on ne sait pas où mettre. Est-ce que vous pouvez.
Le week-end.
On regarde si on peut prendre, pas prendre. Si... On essaye de trouver des solutions. Ils nous renseignent sur les besoins. On a une dame qui fait partie de notre comité et qui est très, très active et qui travaille pour Médecins du Monde, qui visite tous les squats, qui fait des maraudes dans les semaines et qui nous dit, par exemple, maintenant, ce qui manque le plus dans les squats, ce sont les produits d'hygiène.
Hygiène pour les personnes ou hygiène de ménage.
Il y a hygiène de ménage, il y a, si vous voulez, savonnette, dentifrice, brosse à dents, serviette hygiénique pour les dames. Ils ont rien.
Oui, donc vous récoltez ce genre de choses.
Voilà, on récolte, on essaye. On a mis en place une collecte au collège de Montarnon, avec qui on travaille un partenariat, comme disait Cathy tout à l'heure, un très bon partenariat. On travaille aussi avec mon ami qui est au bord du comité, avec le collège de Pignan, avec le lycée Léonard de Vinci à Montpellier, pour essayer de récupérer le maximum et puis d'apporter à ces gens un peu plus d'aisance, on va dire.
Bon, ben c'est exemplaire. Écoutons la deuxième musique que vous avez apportée.
Alors c'est Michel Berger, parce que voilà, on a vraiment envie d'être en relation, en pensée, avec tous ces gens qui sont sur les routes ou qui sont dans l'attente.
lui la face toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Où qu'ils aillent, ils sont tristes à la fête. Où qu'ils aillent, ils sont seuls dans leur tête. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Je veux chanter pour ceux.
Vous avez donc préparé pour la Journée mondiale des réfugiés différentes manifestations. Alors, à partir du 12 juin, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, la première chose, c'est qu'on va faire une exposition. Alors, une exposition à la fois pour présenter ce qu'est cette journée mondiale proposée par l'ONU et donc pour inciter les États à s'organiser et à être voilà des États accueillants à la surface de la planète, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ben les conflits sont très localisés et que en même temps, donc hein, c'est Soudan, Afghanistan, Syrie, donc vous voyez sur des territoires très centralisés, et c'est les pays voisins, les pays proches qui accueillent, et des pays qui en ont pas forcément les capacités en termes ben voilà d'infrastructures. Donc il faut que cette accueil de situations de conflit soit pensé, réfléchi au plan mondial, parce que sinon, ben voilà, c'est nous tous qui allons en avoir les résonances.
Alors cette exposition qui s'appelle Halte aux préjugés, et qui est d'ailleurs fournie par le Centre Documentation Tiers-Monde, voilà, sera à partir du 12 juin
à la salle du conseil municipal, ouverte, accessible aux horaires de la mairie, et on fait un vernissage avec des témoignages des jeunes hommes qu'on a accueillis dans le réseau Welcome, qui viendront parler de leur situation particulière chacun.
Et puis alors le mercredi 19 juin.
Alors mercredi 19 juin, on continue notre travail de mobilisation, de rencontre, et puis ce qu'on veut, c'est que les gens viennent s'engager, viennent manifester cette volonté d'être une terre d'accueil, qui était normalement l'image de la France, hein, d'être une terre d'asile, et que on sent bien qu'elle est très divisée aujourd'hui, cette image, et qu'il faut la travailler, donc on propose des ateliers rencontres, à nouveau avec des personnes accueillies, mais aussi des jeux, des découvertes de la planète, des pays qui font tout le tour de la Méditerranée. On a construit tout un pulse, si on peut dire, pour reconstituer les pays qui font le tour de la Méditerranée.
Et ça se passe à l'esplanade Jean Moulin.
À l'esplanade Jean Moulin, en face de la bibliothèque.
À Montardeau.
Voilà, qui est partenaire de cette activité. Et la grande thématique, ça sera autour du thème, bienvenue, welcome. Et on terminera avec des morceaux choisis d'une pièce de théâtre qui a été créée il y a un an par une compagnie, du territoire de Montpérou, et qui vient jouer des morceaux.
La compagnie de la distillerie.
Voilà.
Et le spectacle s'appelle Bienvenue.
Bienvenue.
Alors, à partir de 18h30.
Oui, le spectacle, c'est des extraits, mais ça fera un enchaînement d'une bonne demi-heure pour clôturer cette journée, ou si vous voulez, on invite à la rencontre, puis surtout à manifester. Il y aura des invitations originales à signer, à dire comment on veut être une commune d'accueil, et aussi on propose à nos communes, à nos élus des communes, de prendre connaissance des chartes, alors celle de l'ONU, et puis il y a aussi une association Villes et Territoires Accueillants en France qui s'est constituée pour justement accueillir des familles, des personnes isolées, et on aimerait bien que nos communes signent et soient ces communes d'accueil.
Alors, on peut s'informer sur votre comité pour tout ce que vous préparez. Vous pouvez donner un numéro de téléphone.
Oui, donc c'est Nicole qui a proposé de réceptionner. C'est le 06 82 45 36 62.
Eh bien, merci beaucoup. J'espère que tous ceux qui nous écoutent auront envie dans leur commune d'en faire autant.
Merci.
Je termine donc avec le calendrier du jour. Il y a, je dois rappeler, je cherche mes papiers. Alors, mercredi 12 juin à 18h30, à la Villa Maglone, le groupe Kéros vous invite à la conférence de Violette Coury, responsable de Sabi à Nazareth, et le thème qu'elle traitera, être chrétienne en Israël. De même, le CCFD Terre Solidaire vous invite à l'assemblée, à son assemblée diocésaine à Metz, aux pénitents, le samedi 15 juin, de 9h à 16h, avec repas tiré du sac. Enfin, il y a les premières rencontres de Salinelle, le 15 et le 16 juin, littérature et création doc actuelle. À Salinelle, donc, dans l'orangerie et le parc du château, échanges et découvertes autour de la littérature en langue doc, faisant le lien entre les grands textes de la tradition littéraire doc et la création contemporaine la plus récente, dans sa diversité. Donc samedi 15 à partir de 14h jusqu'à 22h30 et dimanche 16 juin à partir de 10h, puis à 13h45, clôture festive avec apéritif grillade et scène ouverte. Tout cela se passe donc 800 chemin de la gare à Salinelle, l'accès est libre, et tout le long de ces deux jours aura lieu le salon du livre DOC avec tous les éditeurs DOC. Vous pouvez vous renseigner au 04 67 66 33 31. Et puis je rappelle que le jeudi 13 juin, de 9h30 à 17h, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc, Montpellier, a lieu la journée événement organisée par Terre Nourricière à l'occasion de son AG. Cette association vous invite, sympathisants, partenaires, rejoignez-nous pour booster votre communication. Il y aura des ateliers d'initiation à la vidéo, au web, au graphisme et une réflexion sur l'empreinte écologique de cette activité. À partir de 9h30, donc, accueil et café avec Artisans du Monde et puis dernières inscriptions aux ateliers. Vous pouvez contacter donc contact@terrenourricière.org. À bientôt, chers auditeurs.
Ça y est, ils ont fait sauter la tour Eiffel. On pensait pas qu'ils oseraient, mais le mal est fait. Comment on a pu en arriver là? Difficile à croire. La nuit a été calme, ils ont bombardé que trois fois. Je suis monté à Paris, retrouver ma copine. La guerre nous a pris par le col, nous a sorti de la routine. Remplacer les fleurs par les pleurs, les murmures par les cris. Son immeuble a été touché, je l'ai pas trouvé sous les débris. Je vais rentrer bredouille, rejoindre ma famille dans le premier train. Le départ est prévu pour demain matin. Les hommes sont capables de merveilles et des pires folies. Ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles d'Oli.
Putain, c'est la guerre, on a cassé nos tours d'ivoire. Moi, qui l'ai connu qu'au travers des livres d'histoire. Je veille sur la famille, c'est vrai, nos parents se font vieux. On entasse des bus, on bloque les routes, on se protège comme on peut. Et la foule...